Ce cours de Raveïman a été donné le 3 janvier 1990 à partir de deux textes fondamentaux. D'abord, le traité de Kiddushin, Daf Mem, Amud Bet, page 40b, une ligne avant le large, ou la 13e ligne à partir du bas. Puis, dans un second temps, le Midrash Rabba, Vaikra Rabba Lamed Hei Vevav, pages 35 et 36.
וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובים ועליית בית ניטזה בלוד. Il était arrivé que רבי טרפון וזקנים et les anciens, les חכמים, מסובים étaient assis ועליית בית ניטזה בלוד. עלייה c'est à l'étage, בית ניטזה de la maison de ניטזה. Beloud, dans la ville de Loud, en Eretz Israël. Nish'aela She'ela Zou Bifneem. Voilà la question que l'on a demandée devant eux. Talmud Gadol, Oma'ase Gadol. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire grand. On va traduire Talmud Gadol. Est-ce que c'est l'étude qui est grand? Oma'ase Gadol. Où ce sont les actions? L'action qui est grande. Nena Rabbi Tarfon Vamar Maase Gadol. Rabbi Tarfon lui a répondu Maase Gadol. C'est l'action. Nena Rabbi Akiva Vamar. Rabbi Akiva a répondu Talmud Gadol. C'est l'étude qui est grande. Nenu Kulam Vamru. À ce moment-là, tout le monde a répondu. Donc la majorité. Comme Rabbi Akiva, Talmud Gadol. C'est l'étude qui est grande. Chez Atalmud, mais vil idéma assez. Parce que c'est le Talmud, c'est l'étude, mais vil idéma assez, qui amène aux actes. Ça, c'est le texte de la Gemara. Cette Gemara appelle différentes questions. D'abord, quelle est la définition de Gadol? Gadol, ça veut dire grand. Ça peut aussi vouloir dire plus grand qu'eux. Donc normalement, la question était de savoir qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce qu'il est plus grand? C'est l'étude. Ou alors, le mas, c'est l'action. Est-ce que la question est de savoir qu'est-ce qui est plus grand par rapport à qui? C'est-à-dire, si quelqu'un a le choix entre l'action et l'étude, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse? Ou est-ce que Gadol, ça veut dire on en tire plus de bénéfices, on tire plus de bénéfices dans l'action que dans l'étude? Ce qu'on vient, on me dit, voilà, l'étude, c'est plus grand que l'action, ou l'action est plus grande que l'étude. Si je parle du bénéfice que j'en retire, alors on peut dire l'un est plus grand que l'autre. Si je parle de qu'est-ce qui est plus important dans la vie, alors là aussi on peut dire l'un est plus grand que l'autre. Comment est-ce qu'on va comprendre Gadol? On vient, on me dit, Rabbi Tarfon, Maase Gadol. Agir, c'est mieux que d'étudier. Mieux dans quel sens? Rabbi Akiva vient et me dit, étudier, c'est mieux que d'agir. Dans quel sens? Selon la réponse qu'on va donner, on comprendra ce que veut dire Gadol à Talmud, c'est l'étude qui est plus grand chez mes vili des Maase, il amène à l'acte. Alors attention, si toute la grandeur de l'étude, c'est parce qu'elle amène à l'acte, c'est donc que l'acte est plus grand que l'étude. Alors on n'avait qu'à dire que Maasé Gadol, c'est le Maasé qui est plus grand. Comprenez le problème? Moi je viens et je dis, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Rabbi Tarfon me dit, c'est l'action. Rabbi Akiva me dit, c'est l'étude. À la fin, on dit, c'est comme Rabbi Akiva, c'est l'étude. Mais pourquoi? Parce que l'étude permet d'arriver à l'action. Alors si l'étude permet d'arriver à l'action, c'est donc que l'action est plus grande. Donc c'est Rabbi Tarfon qui a raison. Pourquoi est-ce qu'on a dit Talmud Gadol? Donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire Gadol. On vient, on me dit encore une fois, l'étude, ça a une plus grande valeur. Pour qui, pourquoi? C'est à nous de le déterminer. Viens habiter avec ta femme, me dit non, c'est l'action qui a une plus grande valeur. D'accord. Viens les chachamim et me disent, voilà, on va dire qu'on va bien qui va, Talmud Gadol. Mais pourquoi est-ce que l'étude est grande? Parce qu'elle amène à l'action. Donc ça veut dire que l'étude n'a de valeur que parce que elle m'amène à l'action. Donc il fallait me dire que c'est Rabbi Tarfon qui a raison et que c'est l'action qui est grande. Attendez, venez, on va relire la Gemara. וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובים בעליית בית נידזה בלוד נשאלה השאלה זו בפניהם ועולה לקסטיון תלמוד גדול או מעשה גדול Qu'est-ce qui est plus grand? L'étude ou מעשה גדול? L'action. נהנה רבי טרפון ואמר מעשה גדול, c'est l'action qui est la plus grand. נהנה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול, c'est l'étude qui est le plus grand. נהנו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. D'ici, la Gemara me dit, c'est Rabbi Akiva qui a raison. C'est l'étude qui est plus grande. Pourquoi? Parce que l'étude amène à l'action. Alors je demande d'abord deux choses. Quelle est la définition de Gadol, grand? De quel côté? Et selon ce qu'on dira grand ou petit, pourquoi je dis que c'est Rabbi Akiva qui a raison, que Talmud Gadol, c'est l'étude qui est plus grande? Puisque la grandeur de l'étude, c'est qu'il amène à l'action. Donc je mets que l'action est plus grande. Ça, c'est clair. C'est ça le problème. Si j'ai le choix, entre étudier et faire. Imaginons que je n'ai qu'une heure dans la journée. Je peux me mettre à la disposition des autres et faire des mitzvot. Il y a beaucoup de choses à faire. Le monde, c'est un champ de travail large. J'ai une autre possibilité qui est l'étude. Qu'est-ce que je dois faire ? D'un côté, si j'étudie, j'ai dit, c'est bien, je me suis enrichi. Seulement, le fait de s'enrichir, je n'en vois pas l'application pratique. Ça veut dire que, d'abord, je ne sais même pas si vraiment je me suis enrichi, parce qu'il faudrait que je trouve une autre dimension à cet enrichissement, puisqu'il n'aboutira pas vers la pratique. Ou alors non. Le mieux, c'est de faire. Vous savez que nous nous trouvons dans un olam, dans un monde qu'on appelle le olam amaase. Olam amaase, ça veut dire, c'est le monde de l'action. On est là pour devenir, on est là pour faire, on est là pour changer les choses. On est là pour les construire. Quelqu'un est venu chez les chachamim, il lui dit, voilà. Qu'est-ce qui est mieux lorsqu'on a le choix? Est-ce que c'est l'étude ou c'est l'action? Rabbi Tarfon, il vient me dire, c'est l'action. Comment est-ce que je vais comprendre Rabbi Tarfon? Je vais comprendre d'une façon très simple. Rabbi Tarfon, il n'a pas dit qu'on doit agir sans apprendre. Il n'a pas dit que l'étude n'a pas de valeur. Il me dit seulement une chose. La valeur de l'étude, c'est parce que tu peux le traduire en acte. Si tu as un moyen et tu as un but, il est évident que le but est plus important que le moyen. Le problème n'est pas de savoir est-ce que je dois faire sans savoir ou je dois savoir sans faire. On ne parle pas de ça du tout. On parle de celui Maasé qui fait une action, il la fait bien. Il connaît, il sait comment le faire. Mais à la place, il peut aller étudier autre chose. Viens à Bitarfon, il me dit le maasé, c'est le principal. Viens à Rabbi Akiva, il me dit non, si tu as le choix, va étudier. Rabbi Akiva, lui, n'a pas dit que le Talmud Mevili des maasé, que la grandeur de l'étude, c'est parce que ça amène au maasé. Il n'a pas dit ça. Moi, je me trouve maintenant devant un dilemme. L'étude, ça empêche d'être traduit en acte. Parce qu'on ne peut pas faire les deux choses en même temps. L'acte, il m'empêche de connaître de nouvelles choses. Parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Est-ce qu'il est préférable d'avoir une connaissance. Cette connaissance va me donner, puisque tout le monde sait que la connaissance, ça me donne une liberté que je n'avais pas. Par exemple, moi je croyais qu'il n'y avait qu'un seul chemin. À partir du moment où j'ai compris qu'il y en a deux, je me trouve maintenant devant un choix, j'ai donc acquis une nouvelle liberté. Ça, c'est la possibilité que me donne le Talmud. Ça veut dire que si l'expression de la liberté, c'est le choix, c'est le maaseh, moi-même, je peux choisir d'avoir de nouvelles libertés. En cela, le Talmud, il est gadol. En cela, l'étude a quelque chose de plus grand que l'action. Parce que l'action, ça ne va exprimer qu'un choix. Alors que l'étude, ça va me donner des choix. Quelquefois, l'action, ça ne va exprimer qu'un manque de choix. Je fais parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire autre chose. Donc l'étude a une dimension que je ne trouve pas dans l'action. Mais d'un autre côté, vient Rabbi Tarfon et me dit, il ne faut pas s'illusionner. Puisque l'étude sans action, ça n'a pas de valeur. Parce que si je ne traduis pas ce que j'étudie, ça n'a pas d'importance. Alors tu es obligé de dire qu'un c'est le moyen et l'autre c'est le but. Donc c'est l'action qui est la plus importante. Viennent les Chachamim et me disent, voilà, nous on va dire que la halakha est comme Rabbi Akiva. Ça veut dire le fait de s'élever, le fait d'avoir de nouveaux choix, d'avoir une connaissance qui va me permettre d'avoir de nouvelles libertés, c'est plus important que l'acte que je vais faire maintenant. Parce que le Talmud, il est mévi, il est démincé. L'étude me donne la possibilité d'agir. Nous, on a dit, mais alors, c'est donc un moyen, c'est pas vrai. Si je pensais qu'il n'y avait qu'un seul chemin, et que maintenant je sais qu'il y en a deux, c'est ça, Talmud, mévi, il est démincé. Avant, tu n'avais pas de maasé à ta disposition. Ça veut dire que tu n'avais que des petites possibilités. Tu vas choisir ce qui te donne des grandes possibilités. Il en reste qu'il y a toujours la restriction de Rabbi Tarfon, avec laquelle on est d'accord. Que si j'étudie que je n'agis pas, l'étude perd de son sens. Non seulement perd de son sens, mais on va dire qu'elle n'a aucune valeur. Et on va essayer là de voir où ça nous mène. Parce que dans Talmud Mevilidma, si on a deux possibilités. Ou je dis comme on vient de dire que la grandeur de l'étude, c'est que ça m'éclaire et ça me montre des nouvelles possibilités. En cela, l'étude est plus grande que l'action. Mais encore une autre possibilité, c'est que l'étude lui-même, ce soit quelque chose qui pousse à l'action. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. La seule raison pour laquelle il y aurait une restriction, et c'est ça la restriction de Rabbi Tarfon, que Maase Gadol, c'est le fait que ce soit une étude sans application. Je veux dire, à quoi ça sert? Je dis, il n'y a pas de risque que l'étude soit sans application parce que c'est l'étude qui pousse à l'application. Et on va donner un exemple très simple. Moi, dans la vie de tous les jours, je me conduis d'une façon X ou Y et je ne sais pas exactement si ce que je fais a des conséquences. On va prendre un limoud très classique. Tout le monde connaît la Gemara, le traité de Baba Kama. Le traité de Baba Kama, c'est le premier traité du Seder Nezikim dans la Mishnah, dans la Gemara. Et il parle de quoi? Il parle des dommages causés à autrui. Quelle est la définition d'un dommage? Quelle est la définition de la propriété? Quelle est la définition de la responsabilité? Quelle est la définition de ce que je peux payer? C'est-à-dire, quelles sont mes possibilités de me racheter ou de réparation? Et il va me parler de ces choses-là en des termes de Talmud, d'étude. Automatiquement, je vais avoir un nouveau maasé. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais l'habitude, lorsque je me garais, quand on se gare un petit peu difficilement, alors on emboutit la voiture de derrière, celle de devant. Il y a des gens plus élégants qui laissent une carte de visite. Il y en a qui estiment que c'est pas la peine parce que ça vaut pas grand-chose. Il y en a qui ne se sont jamais posé le problème. Il y en a qui proposent un arrangement à l'amiable et pas avoir recours à l'assurance parce qu'on perd le bonus. Chacun a une façon de se conduire. Il est possible que dans ma façon de me conduire à moi, je n'ai pas du tout conscience que j'ai là touché quelque chose dont la Torah parle. J'ai touché quelque chose qui a une loi. J'ai touché quelque chose qui est régi par un système. À partir du moment où j'ai étudié la Gemara de Baba Kama, je me suis rendu compte que ici j'ai fait ce qu'on appelle un ézek, un dommage. Et ce dommage, il a des lachot, ça veut dire il a des façons d'appliquer, façon de réparer, façon de se conduire. C'est ça qu'on a l'habitude de dire dans les yeshivot, qu'il n'y a jamais autant de dommages qui se passent que lorsqu'on étudie la Gemara de Baba Kama. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui vient vous dire, ah, j'ai cassé une vitre, est-ce que je dois la payer? L'autre vient vous dire, j'ai cassé un banc, est-ce que je dois la payer? Là, tu viens jeter les stylos d'autres à la poubelle, est-ce que je dois le payer? Pourquoi lorsqu'on n'étudie pas cette Gemara, on ne pense pas à ça? C'est ça, Gadol, la Talmud Amé Vili Demaase. C'est-à-dire que ça va éclairer ce que je fais d'un autre éclairage. Si ça va l'éclairer d'un autre éclairage, alors ça va m'amener au Maasé. Parce que dans la façon que j'ai de me déplacer, j'ignore souvent qu'il y a des Maasim à faire. À partir du moment où j'étudie, automatiquement ça va me placer dans une situation où je suis confronté avec le Maasé. Donc, de quoi tu peux, Rabbi Tarfon, que l'étude, ça reste une étude qui n'est pas d'application? J'ai dit automatiquement, à partir du moment où j'ai éclairé un problème, je suis confronté avec le problème du Maasé. Le Maasé, c'est quoi? C'est celui qui cause un dommage et qui le répare. Celui qui ne fait pas de Maasim, c'est celui qui cause un dommage et qui ne le répare pas. Ou celui qui s'imagine qu'il ne cause jamais de dommage. Alors il va étudier cette Gemara d'Abraham Baba Kama, il va voir qu'il cause beaucoup de dommages. Il va voir que sa vie est pleine de chélotes, pleine de problèmes. Cet éclairage-là, ça va le pousser au Maasé. C'est exactement le premier pshat qu'on a dit. À partir du moment où j'étudie quelque chose, j'accède à une nouvelle connaissance, j'ai acquis une nouvelle liberté. Ça veut dire que ça m'a éclairé dans mes choix, on m'a proposé des nouveaux choix. Si on me propose de nouveaux choix, automatiquement, je suis jeté dans le Maasé. Donc on va apprendre la Gemara de façon très simple. Quelqu'un qui a une heure dans la journée, il a une possibilité d'aller faire une mitzvah. Il a une possibilité de s'occuper du club du troisième âge. Ou alors il va étudier. C'est un choix dans la vie. Dans la vie, on peut décider d'être médecin ou rabbin. C'est un choix dans la vie. Rabbi Tarfon, il vient, il me dit, il faut le Maasé. Et on pourrait même dire que Rabbi Tarfon, il a une idée derrière la tête, c'est que pour faire le Maasé, il faudrait bien que tu étudies. Il faudrait bien que tu te renseignes. Donc tu vas avoir les deux. Viens Rabbi Akiva, il dit non, pas du tout. Gadol HaTalmud. Parce que c'est vrai que le but, c'est le Maasé. C'est vrai que le but, c'est le Maasé. Seulement pour arriver à ce Maasé, je suis obligé de passer par un moyen qui s'appelle le Talmud. Et ce moyen qui s'appelle le Talmud, c'est lui-même qui va me montrer des nouveaux Maasim. Mais vili des Maasim, ça veut dire ne crois pas que le choix est simplement est-ce que je m'adonne à ça ou à ça. C'est pas vrai. Parce que le Maasé que je ferai, il va être dépendant de la connaissance que j'ai des choses. Donc je suis obligé de dire que Gadol, pas dans le sens plus important ou moins important, Gadol, ça veut dire dans le sens de ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est d'abord l'étude, parce que l'étude amène l'idée maasé. Qu'est-ce qui va se passer si l'étude n'amène pas l'idée maasé? Si l'étude ne fait pas que moi, j'ai un nouvel éclairage, et que automatiquement je me conduis autrement, on va voir. Mais normalement, c'est le sens de l'étude. Maintenant, on va essayer de voir une autre dimension qu'on a entendue. Qu'est-ce qui va se passer si je dis que l'étude lui-même, c'est un maasé? C'est-à-dire que le fait d'étudier en soi, ça a une valeur. Ça, c'est sûr que c'est comme ça. C'est comme ça parce que la Gemara elle-même, elle le dit ici. Trila dino shel adam, eno ela al divrei Torah. La première chose qu'on demande à quelqu'un, est-ce que tu as étudié la Torah ? Le jour où on va le juger, on va lui demander, est-ce que tu as étudié la Torah ? Qu'est-ce que tu sais ? Trila dino shel adam. Ça, c'est le début. Il dit, pourquoi tu sais ? Parce que tu es venu ici pour t'enrichir. Alors là, il faudrait connaître une dimension qui est très simple. La halakha, on a déjà parlé de ça une fois. Quelqu'un est en train d'étudier. Et il y a une mitzvah qui se présente à lui. Il y a un maasé, une action qui se présente à lui. Qu'est-ce qu'il doit faire ? La halakha, elle est que tu dois fermer le livre et tu dois faire. Le problème, il est simple. On a un principe qui est différent dans toute la Torah. Le principe, il est « Aosek be mitzvah, patur mina mitzvah ». Aosek be mitzvah, celui qui est déjà occupé à faire une mitzvah, patur mina mitzvah, il n'est pas obligé d'en faire une autre. Non seulement il n'est pas obligé d'en faire une autre, il n'a même pas le droit d'aller faire l'autre. Il n'a pas le droit de laisser la mitzvah de côté et d'aller faire une deuxième. Ça, c'est le principe de « Aosek be mitzvah, patur mina mitzvah ». Ce principe est valable dans toutes les mitzvahs de la Torah, à part une seule. Talmud. L'étude. Dans l'étude, il n'y a pas ce principe-là. Pourquoi ? Ici, on en voit la raison. Parce que la grandeur de l'étude, c'est qu'elle amène au maasé. C'est qu'elle me permet d'avoir des choix. Si au moment où j'étudie, l'étude me gêne dans ma pratique, alors il n'a plus de sens. Il a une valeur en soi. Mais il n'a une valeur en soi qu'à concurrence où il ne me gêne pas dans ma pratique. Et on va dire même plus que ça. Si toute la raison de l'étude, ça n'est pas pour le traduire dans ma vie, cette étude n'a plus de valeur. C'est vrai qu'il y a une valeur de l'étude en soi, mais la valeur de l'étude en soi est seulement si c'est à condition que je le traduise dans ma vie. Si je ne le traduis pas, parce que je serai tout le temps occupé à étudier, il n'a plus de valeur. C'est pour ça que dans toutes les mitzvot de la Torah, on dit « A osek be mitzvah patur mina mitzvah » celui qui fait une mitzvah, il n'est pas tenu de la quitter pour en faire une autre, à part Talmud Torah, à part lorsqu'il étudie la Torah, qu'il est obligé de fermer son livre et d'aller faire la mitzvah. Donc maintenant, on comprendrait la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon vient et dit, sauf, en fin de compte, celui qui étudie et qui ne pratique pas, ça ne vaut rien. Donc tu es obligé de dire que le maas est gadol ? Le maas est en lui-même, c'est qu'il traduit l'étude et qu'il a une force qui est que nous sommes dans un monde qui est l'olam ha-maasé, et sans maasé, sans action, on n'est rien, on n'a rien fait. Viens Rabbi Akiva, il me dit une seconde, Talmud. Le Talmud est gadol, c'est pas vrai. Parce que tout ce que tu pourras faire, si tu as une heure devant toi, il vaut mieux se trouver de nouveaux choix à faire. Il vaut mieux se trouver quelque chose qui va me donner une autre vision du monde encore. Au lieu de foncer tête baissée dans celle-ci, où tu as peut-être des erreurs. Lorsque on augmente la connaissance, on augmente sa liberté. On augmente sa liberté, ça veut dire qu'on augmente son action. Parce que la liberté, si elle ne donne pas son action, elle n'existe pas. C'est vrai que si quelqu'un était tout seul au monde et qu'il n'avait aucun moyen de communication et aucun moyen d'action, sa liberté devient nulle. Donc qui dit augmentation de la liberté, dit automatiquement action. Viens les Chachamim, ils disent, il a raison, Rabbi Akiva. Parce que le Talmud, la force de l'étude, c'est qu'elle mène à l'action. Mais il y a une seule condition. À condition que je prenne comme base que ce que j'étudie, je le pratique. Ça veut dire que jamais l'étude n'empêchera l'action. C'est seulement si j'ai un choix à faire au commencement, j'ai une heure. Alors là, je vais choisir l'étude. Mais en aucun cas, l'étude doit empêcher l'action. C'est pour cela qu'en vertu de ce principe, que Gadola Talmudam et Vili Demaase, toutes les mitzvot de la Torah, je les laisserai pour une autre mitzvah, mais la mitzvah de l'étude, je ne l'abandonnerai immédiatement pour une autre mitzvah. Parce que son sens, c'est de pouvoir être traduit dans l'action. Si ça ne peut pas être traduit dans l'action, alors, ça ne me sert à rien d'avoir une nouvelle liberté, ça ne me sert à rien d'avoir de nouveaux choix, ça ne me sert à rien d'avoir une connaissance. Donc ici, on va voir que non seulement l'étude, ça me permet une action, Mais l'action elle-même, elle permet à l'étude d'avoir une valeur. S'il n'y avait pas la possibilité de le traduire, l'étude n'aurait aucune valeur. Maintenant, on va venir au Tosfot. Tosfot interprète exactement de la même façon. Tosfot, il vient, il dit, voilà, il pose une question d'une autre Gemara. C'est ça que je ne voudrais pas entrer là-dedans. Il pose une question d'une autre Gemara où on voit que c'est le contraire. Tosfot, il dit, c'est simple. Si quelqu'un a le choix, il ne sait pas comment il doit commencer. Il ne sait pas par quoi il doit commencer. La Gemara, c'est certain qu'il doit commencer par l'étude. Mais une fois qu'il sait, il est obligé de pratiquer ce qu'il fait. En fin de compte, ça ne va pas du tout dans le sens contraire de ce qu'on dit. Tout celui qui sait quelque chose, il est obligé de le pratiquer. S'il ne le pratique pas, sa connaissance, elle est nulle. Alors là, on va voir qu'il y a deux dimensions. Parce que là, il faut être très clair. Première dimension, elle est simple. Je connais quelque chose. À partir du moment où je ne l'ai pas appliqué, ce que je connais, ça ne m'appartient pas. Ça veut dire le fait de le connaître, c'est nul chez moi. On a déjà parlé de ça souvent. Quelqu'un vient et me demande, voilà, qu'est-ce qui est plus important ? La marshava, la kavana, c'est-à-dire la pensée que je mets dans l'action, ou l'action. Et là, des deux côtés, je me fais coincer. Si je dis, c'est l'action, on va me dire, mais c'est pas vrai, la preuve. Le Shabbat, j'ai fait quelque chose sans le faire exprès. Ça ne s'appelle pas une malacha, ça ne s'appelle pas une action. Il faut penser à ce qu'on fait, sinon ça n'a pas de valeur. Le gars, il s'appuie au mur et puis il y avait juste l'interrupteur, il a allumé la lumière. Ce n'est rien, ça s'appelle mitasek. Mitasek, ça veut dire, il est en train de faire autre chose. Donc l'action sans pensée, ça n'a pas de valeur. Ah, tu me dis donc le principal, c'est la pensée. Il dit, celui qui a pensé à mettre les tefillin tous les matins, il s'en est rappelé, il a pensé à les mettre, il ne les a jamais mis. Alors, ça n'a pas de valeur non plus. Donc on est coincé. Nous, une fois, on a donné une solution, elle était très simple. C'est vrai que le principal, c'est la pensée. Parce qu'une action sans pensée, elle n'a aucune valeur. Seulement, la pensée ne m'appartient, elle est la mienne, que si je l'ai traduite en action. Tant que je ne l'ai pas traduite en action, elle n'existe pas. C'est la pensée du livre, ce n'est pas la mienne. Étudier, ça veut dire assimiler ce qui est marqué dans le livre. Tant que je ne l'ai pas, ou que je ne peux pas le traduire en action, tout ce que j'ai assimilé, ça ne m'appartient pas, ça appartient au livre. Quand est-ce que ça veut devenir ma pensée ? À partir du moment où je l'aurai traduite en action. Si je ne la traduis pas en action, ce n'est pas ma pensée. La preuve, c'est que chacun lit les journaux. Après avoir lu, il ne sait toujours pas s'il est convaincu. Il y a deux candidats. Un me dit de voter pour la droite, l'autre me dit de voter pour la gauche. Je les ai entendus les deux. Comment est-ce que je vais savoir si je suis de gauche ou de droite, selon le bulletin que j'aurais mis dans l'urne? Parce que j'ai entendu les deux. Et les deux n'ont de rapport avec moi qu'à partir du moment où j'ai choisi. Choisir, ça veut dire s'investir. Si je n'ai pas investi, ce n'est pas que j'ai choisi. Je pense comme. Je pense comme, ça veut dire je pense qu'il a raison. C'est sa pensée, ce n'est pas la mienne. Ça devient la mienne à partir du moment où je l'ai traduit. C'est la raison pour laquelle la Torah n'envisage pas de considération, quelle que ce soit pour une personne qui connaît quelque chose et qui ne le fait pas. Parce que sa connaissance, elle est nulle. Tout ce que je connais, que je n'applique pas, ça n'a aucune valeur. On va voir après comment s'exprime le Midrash pour ça. Ça, c'est une dimension. Mais encore une autre dimension. Chacun dans le monde est engagé dans des actes malgré lui. Parce qu'il est engagé du fait de sa naissance, de sa jeunesse, de son éducation, de son métier, dans une action, et il n'occupe de place que selon la valeur de son action. On va donner l'exemple très simple. En hébreu, le mot la asot, la racine, c'est asso. Aïn, sin, hei. Si vous inversez les lettres, vous avez le mot shao. Shin, ayin, hei. Shao, ça veut dire s'intéresser à, tendre vers. Quelle est la traduction du mot shao, asya? Je tends vers quelque chose. Ça qui est marqué à propos de Caïn. Vel Caïn, vel minchato, lo sha'a. A Kadosh Baruch Hu, il n'y avait pas d'inclinaison. Je fais selon mon inclinaison. Si je ne suis pas capable d'action, c'est que je suis dans l'attentisme et le temps qui passe, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. On a dit une fois, tout le monde sait que le temps c'est une création. Il paraît que si on échappe à l'attraction terrestre, on peut même échapper au temps. C'est le temps, c'est une création. Ça, c'est des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on comprend? On ne comprend pas ce que ça veut dire. J'ai fait quelque chose avant l'autre chose. Ça, c'est plus vieux. Tu veux dire, c'est une création, mais ça a été fait avant. On a expliqué que le temps, c'est une création dans une mesure. L'instant que je vis, c'est une petite part de quelque chose qui m'est dévoilé. L'instant d'après, c'est une autre part de ce quelque chose qui m'est dévoilé. Et l'instant d'après, c'est encore une autre part. On avait donné l'exemple comme ça. Le Mirtav Media vous donne l'exemple et dit voilà. Tu veux comprendre ce que c'est que le temps? Tu vas utiliser un exemple. Il y a une roue qui tourne devant une lumière. Et cette roue, elle est percée de petits ronds. Chaque fois que la roue tourne, apparaît la lumière. C'est toujours la même lumière qui apparaît. Elle apparaît selon sa possibilité de dévoilement. C'est-à-dire que chaque instant que je vis, c'est qu'on me propose quelque chose. En cela, le temps, c'est une création. Ça veut dire que j'ai vécu quelque chose maintenant. L'instant d'après, je vais vivre quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on va me proposer quelque chose d'autre. Qui c'est qui va me proposer? C'est ce qu'on appelle la neshama. Ma personne va percevoir, selon les instants, quelque chose de différent. Ce quelque chose de différent, on appelle ça le temps. On aurait pu tout voir en même temps. À ce moment-là, on aurait tout dévoilé. On aurait dévoilé qu'est-ce que c'est que la personne, qu'est-ce que c'est que sa neshama, son âme. Tout ce dont il est capable, tout ce à quoi il aspire, s'est révélé à travers l'instrument qui s'appelle le temps. Asiya, ça veut dire d'utiliser ce temps-là. Si je ne fais rien, il y a ce dévoilement, cette lumière qui m'est montrée et qui ne sert à rien. C'est ce que nous on appelle le temps qui passe. Il ne passe pas le temps, puisque c'est une création. C'est un consensus. Donc il ne passe pas le temps, s'il passe. Il passe parce qu'à chaque instant, il y a un nouveau dévoilement duquel je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas traduit. J'ai perçu quelque chose, je n'ai pas réagi. Ça, c'est la valeur de l'action. Ce qui nous mène à deux choses. D'abord, que l'étude n'a de valeur que s'il peut être mis en acte. C'est-à-dire que je suis prêt au moment où j'ai une connaissance, à ce que cette connaissance, elle me donne de nouveaux choix, et pour qu'elle me donne une nouvelle liberté, pour qu'elle ait de valeur, il faut que j'agisse. Qu'on a dit qu'il n'y a pas de choix sans acte. La deuxième chose, c'est que si il n'y avait pas cette possibilité de traduction, alors l'étude, elle ne serait pas la mienne non plus. Il n'y aurait aucun dévoilement du temps dans l'étude si je n'avais pas la possibilité de traduire en acte. Parce que ce ne serait pas mon étude, ce serait le livre. Ça n'aurait pas de rapport avec moi. C'est la raison pour laquelle nous nous disons Talmud, Mevili, Demaasé, on a dit. Ça me donne un éclairage. Cet éclairage, automatiquement, il provoque chez moi le fait de faire. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre l'étude et les autres mitzvot. Vous savez que dans les autres mitzvot, on dit mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Pourquoi elle entraîne une autre mitzvah? Il est possible parce que je suis dans des dispositions d'esprit qui font que je vais chercher d'autres mitzvot. Parce que j'en ai fait une, maintenant je suis réceptif aux autres mitzvot. Avera, goreret, avera. Quelque chose que je ne devais pas faire, ça va m'entraîner à faire d'autres choses que je ne voulais pas faire. Pourquoi? Parce que la disposition d'esprit change. Mais marqué Gorer entraîne. Ici, le mot, il est 100 fois plus fort. Il est marqué Talmud Meivili Demaasé. C'est-à-dire, quoi que je fasse, je me retrouve dans les bras du Maasé, de l'action. Je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est la force de l'étude. Maintenant, on va voir Comment les Chachamim traduisent ça dans la réalité? Regardez le Midrash que vous avez après. La cinquième ligne, le petit Vav. Vet mitzvotai tishmoru va'asitem otam. Il est écrit dans la parasha de Bechukotai. Vet mitzvotai tishmoru, vous allez respecter mes mitzvot. Va'asitem otam et les faire. Vous savez qu'en français, on dit toujours faire. Ce mot en hébreu, va'asitem, ça a la valeur du mot va'asitem, assis à faire, ça a une autre valeur. Les Chachamim s'interrogent et demandent qu'est-ce que ça veut dire ça. Et mitzvot et tishmoru, ça veut dire tu dois appliquer les mitzvot. Ensuite, tu dois les faire. Faire quoi? Amar miyachama barchanina, im shamartem et la Torah, si vous observez les commandements, areinim ale alechem, je vous considérerai que ilu atem asitem otam. Comme si c'est vous qui avez créé les mitzvot. Une révélation. C'est quelque chose qui vous appartient à vous. C'est ça qui a marqué Va'asitem Otam. Le Midrash traduit Va'asitem Atem. Parce que le mot Otam est marqué sans vav et ça peut vouloir dire Atem vous. Donc on voit comment il traduit le verset. Vet mitzvotai tishmoru. Vous garderez les mitzvot. Va'asitem Otam. C'est comme si c'est vous qui les aviez inventés. Elles vous appartiennent. C'est votre théorie. C'est vous. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul auteur du Code Napoléon. Mais des auteurs de la Torah, ils sont nombreux à concurrence de tous les juifs qui l'observent. Ça, c'est exactement l'idée qu'on a dit plus haut. Lorsque je traduis le livre en acte, c'est plus l'idée du livre, c'est la mienne. Maintenant que le livre dise la même chose que moi, et que c'est grâce au livre que j'ai trouvé mon idée, ça n'a plus aucune importance. Ça devient moi qui fais. Il y a encore un autre sens au verset. Im shmartem et Torah, si vous gardez les mitzvot, areinima le alechem kilu asitem atzmechem. Asitem atzmechem, ça veut dire si vous étiez créé. On ne parle pas des mitzvot. Ce n'est pas vous qui avez fait des mitzvot. C'est vous qui vous êtes fait vous-même. Pas seulement c'est vous qui avez créé la Torah, pas seulement c'est vous qui avez inventé la mitzvah, pas seulement que l'originalité de l'acte vous appartient, pas seulement que c'est vous qui avez vous-même construit le monde tel qu'il est, mais vous vous êtes créé vous-même. Asitem, atem. Vous-même, vous vous êtes créé. Ça, c'est la deuxième idée. Talmud mevili de maase, la force de l'étude, c'est qu'elle me donne la possibilité. Elle me donne un nouvel éclairage et elle me donne des choix. Moi, par rapport à ce choix, c'est moi qui me suis créé avec cet éclairage-là. Quelqu'un était dans la forêt. Il croyait qu'il n'y avait qu'un chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin, il mène nulle part. Il tourne. Il tourne, il tourne, il tourne. Tel que le bon Dieu l'a fait, un jour il s'arrête de tourner. S'il a découvert qu'il y a un deuxième chemin. Alors maintenant, à partir du moment où il a découvert le deuxième chemin, c'est la découverte qu'il a créée lui-même. Parce que lui, il était déjà terminé. Lui, ses possibilités telles qu'elles étaient au début, elles étaient arrivées à leur terme. Chaque chose que j'apprends, qui me donne une nouvelle possibilité, ça fait que je ne suis plus au stade d'avant. C'est comme si je m'étais créé. Parce qu'au stade où j'étais, si je continue comme ça, je ne ressemble en rien à ce que je suis maintenant. C'est-à-dire que je suis le produit de ce que j'ai bien voulu être. Ça, c'est les deux sens. Non seulement c'est moi qui ai créé la mitzvah maintenant, c'est moi qui ai créé l'acte. Parce qu'à partir du moment où je l'ai lu dans le livre et je l'ai assimilé, et que je l'ai pratiqué, il est devenu mien. Mais la personnalité que je suis, ce n'est pas celle que le bon Dieu a faite. C'est pas vrai. Lui, il a fait quelqu'un qui se serait perdu dans la forêt. Moi, j'ai fabriqué quelqu'un qui a su s'en sortir. C'est ce qui a marqué dans le Midrash. Asitem et atzmechem. Continuons. Tani Rabbi Chia. Alomed la Asot. On parle de celui qui fait pour pratiquer. Ça veut dire que l'étude lui donne de nouvelles possibilités. Lo alomed shelo la Asot, pas celui qui étudie pour étudier. Alomed shelo la Asot, noachlo shelo nivra. Celui qui étudie sans intention de le traduire dans la réalité, noachlo shelo nivra. Il lui mieux valu qu'il ne fut pas créé. C'est clair. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si c'est pour rester au stade de ce que le bon Dieu a fait de toi, c'est pas la peine. Il y a marqué dans la Torah, tout le monde le sait, on dit tous les vendredis soirs, dans le Vayikhulu, Asher, Bara, Elohim, La'asot. Dieu a créé le ciel et la terre, La'asot. La'asot, ça veut dire quoi, La'asot? Pour faire. Faire quoi? Le bon Dieu, c'est le point de départ. Moi, je suis obligé de continuer. Si je ne continue pas, j'ai rien fait. Alors, si cette étude-là, il n'est pas fait pour être traduit, donc il appartient au livre, donc il ne m'a pas donné de nouveaux éclairages, de nouvelles possibilités, puisque moi, je m'en tiens à la connaissance, c'est-à-dire à être un lecteur, à partir de ce moment-là, noir chez le livre, ça ne vaut pas la peine. Bon, parce qu'on a dérangé le bon Dieu, on a dérangé les parents, on a dérangé tout le monde pour un résultat nul. Noir, il dit, ça aurait été mieux. On va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit autre chose. Amar Rabbi Yochanan, alomet shelo la'asot. Celui qui étudie sans intention de traduire dans la réalité, noach lo, il eût mieux valu, shenepra shiliato al panav, velo yatsa la vira olam. Je vous passe les détails techniques. Nepra shiliato al panav, ça veut dire qu'il y a eu un accident au moment de sa naissance et qu'il n'ait pas vu le jour. Pourquoi est-ce que Rabbi Chanan donne des détails comme ça? Nefra Shiliato Alpanav, ça veut dire qu'il y a un accident au moment de l'accouchement. C'est qui parle de ça. D'abord, le premier, Rabbi Chanan a été plus discret. Il vient, il dit, bon, Shelo Nivra. On a dérangé tout le monde, on a dérangé un moment pendant 9 mois. Il est mieux venu que ça ne se passe pas. C'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt. D'accord. Il vient, Rabbi Chanan, il me donne un détail très technique. Il dit non. C'est comme si quelqu'un a été en gestation pendant 9 mois, mais au moment de l'accouchement, il n'y a rien qui sort. Quel est l'intérêt de me raconter ça? Peut-être que le chat est très simple. Si c'est pour rester au stade de la Neshama, sans traduction dans la réalité, alors un enfant, au moment où il naît, il a une neshama. Seulement c'est une neshama, lorsqu'il arrive un accident au moment de la naissance et qu'il ne voit pas le jour, à laquelle on ne donne pas la possibilité de s'exprimer dans la réalité. Ça veut dire que la neshama, elle existe, mais elle est là pour rien. On a dit la neshama, c'est ce dévoilement que j'ai à chaque instant de ma vie. Ça, c'est pour rien. Donc il dit Rabbi Yochanan, c'est pas comme il dit Rabbi Chia seulement, qu'il est mieux fallu qu'il ne soit pas là, non. Il eût mieux valu que seulement sa neshama vienne au monde, mais pas lui, puisqu'il n'en a rien fait. C'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Ça qu'il insiste sur le technique de l'affaire. Nefra shiliato al panav, ça veut dire, oui, il y a eu 9 mois, oui, il y a eu un accouchement, oui, il est venu au monde, mais ça s'est mal passé. Pourquoi ça s'est mal passé? Parce que le dernier barrage, celui de la traduction ou de l'application de la neshama dans le gouffre, dans le corps, il est inutile. Parce que toi, tu ne te sers pas de ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les chachamim viennent et disent, voilà. L'étude, c'est quelque chose, c'est une donnée à laquelle il m'a été donné d'accéder. Si cette étude, elle n'est pas faite pour le traduire dans la réalité, ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas du domaine de la Asiya, qui n'est pas du domaine de l'activité. Et notre monde, c'est le monde de l'activité. On a dit pourquoi c'est le monde de l'activité? Parce que la Neshama elle-même, elle était bien chez le bon Dieu, elle n'avait pas besoin de venir ici. Si elle est venue ici, c'est pour qu'on puisse traduire quelque chose dans la réalité. Je n'existe pas parce que je pense que, ou J'ai un yetzer, j'ai un penchant qui me dit fais ci ou fais ça. J'existe parce que j'ai fait quelque chose, j'ai construit quelque chose. Ça vient à me poser une question qui est très simple. Tout le monde comprend cette gemara, elle est très facile. La première gemara, elle est encore plus facile. Qu'est-ce qui est mieux, l'étude, l'action? On dit c'est l'étude parce que ça mène à l'action. Ça me donne des nouveaux choix, ça me donne une possibilité d'action plus grande. C'est ça la vraie action. Très bien, tout ça c'est joli. On vient me dire, attention, celui qui étudie chez Loal Menat Lassot, c'est pas pour faire. Il manque une dimension en sa vie puisqu'il en est au stade de l'anshama, donc il n'a pas besoin de son corps, il n'a pas besoin de cette possibilité d'activité qui a été donnée à l'homme. D'accord, tout ça je comprends. Maintenant, comment on va faire pour expliquer que les gens étudient depuis des années, on étudie tous depuis des années, il n'y a rien qui change. C'est ça le vrai problème. Il n'y a rien qui change. C'est la personne telle qu'on la voit chaque semaine, elle est la même. Ça recommence. Comment c'est possible? Comment c'est possible que les Chachamim s'expriment sur quelque chose d'une façon aussi dure? C'est-à-dire que c'est une nécessité absolue de la vie que le Talmud se traduise en Maasé et qu'on voit que ça ne change pas. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que ça veut dire que le Talmud il est chez Loal Menat Lassot? Ça veut dire que je viens étudier mais pas pour faire. Ce qui est improbable. Parce que ça ne veut rien dire. C'est un système de vie qui ne veut rien dire. Ou alors ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas la possibilité de faire. Mais normalement quelqu'un, après l'étude, il doit changer. Ça ne se voit pas tout de suite sur le système pileux. Ça doit se voir sur la kippa. Ça ne se voit pas tout de suite sur la kippa. Ça se voit autrement. Ça ne se voit pas. Ça sent. Ouais.
Une personne dans la salle est intervenue pour remarquer que Spinoza disait « La conviction, c'est quand il reste encore toujours une possibilité de croire au contraire. Et la démonstration, c'est le cas où il ne reste plus aucune possibilité de croire au contraire. Et l'application de cela serait qu'un religieux peut convaincre, il restera toujours la possibilité pour un individu de se dire, peut-être que quelqu'un d'autre aura la possibilité de me convaincre du contraire.
Ah, attention, on ne parle pas de ça. D'accord. Ça, c'est très grave. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Monsieur Taïeb, il nous a emmenés sur une piste dangereuse. Parce que ça veut dire qu'on ne parle plus d'études. On ne parle pas d'études. Études, ça veut dire, je veux savoir comment je dois me conduire. Je veux savoir ce que je dois faire. C'est une question de savoir. Si on ne parle pas d'études, alors il a raison. On parle de mise en cause ou on parle de discussion. C'est vrai que si je discute la Torah, donc la Gemara qu'on a apportée et le Midrash, ils n'ont rien à voir avec nous. Parce que l'on est là pour discuter la Torah, on n'est pas là pour l'étudier. D'abord, on va la discuter. La discuter, ça prend beaucoup de temps parce que ça peut durer 10 ans, 20 ans. Et un jour, il va falloir l'étudier quand même, puisqu'on l'aura tellement discuté qu'on sera peut-être convaincu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça, le problème. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr. Si c'était ça, ce serait formidable. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle ça n'avance pas, ou ça avance peu, c'est que, puisque je ne suis pas convaincu, donc ce que je fais, ce n'est pas de l'étude, c'est du renseignement. Alors là, à partir du moment où c'est du renseignement, c'est vrai. La réponse, elle est magnifique. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça la vérité. Si c'était chez tout le monde comme ça, ce serait formidable. Parce que là, le renseignement, d'abord c'est intéressant. Et puis en plus, on a une possibilité formidable. Je vais vous dire. Moi j'ai souvent pensé que le judaïsme, il n'a pas besoin d'observateurs. Il n'a pas besoin de supporters. Il a besoin de juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être observateur, on peut être supporter. Mais il y a quand même un moment où on devra prendre la décision. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire que on n'avance pas, on ne peut pas progresser. Pourquoi? Parce qu'on est toujours supporter. Attention, je ne sais pas jouer au football parce que j'aime voir le football. Je suis sympathisant. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je ne veux pas parler de ça. Je voudrais même dire que ça pourrait être un cas particulier. J'ai pas l'impression que ce soit comme ça. Si c'était vraiment comme ça, ça veut dire que à travers chaque détour de l'agma, on est obligé de prouver l'existence de Dieu. serait d'accord. On ne peut pas convaincre, si ce n'est qu'il y a toujours une possibilité de dire le contraire. C'est vrai. Mais je crois que le problème n'est pas là. Le problème, c'est la traduction de ce qu'on étudie dans la dimension d'action. Et là, c'est intéressant de savoir pourquoi ça ne marche pas. Moi, je vais vous dire, on ne va pas être pessimiste. C'est vrai que les gens ont peur. Tout le monde a peur. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas peur. Il est marqué dans les Meforshim sur la paracha de Vayishlach. À la guerre, tout le monde a peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur, c'est un imbécile. Le problème n'est pas d'avoir peur, c'est ne pas tenir compte de la peur. C'est-à-dire, c'est plus difficile de manier un fusil lorsqu'on claque des dents, mais on doit pouvoir y arriver. C'est vrai qu'il y a une certaine peur, mais moi je crois qu'il y a encore autre chose. Il y a que souvent, on se sent petit par rapport à l'étude. Ça veut dire, on pense à de grandes choses, selon dans la réalité, on croit qu'on est resté petit. Parce qu'on a une habitude extraordinaire, que l'on voit souvent, c'est que dans la société qui nous entoure, les paroles sont généralement intraduisibles en actes, ou en tout cas elles ne sont presque jamais traduites. Et ça n'empêche pas d'avoir une opinion. Et nous, nous avons pris l'habitude de vivre comme ça. Ça, c'est dangereux. Pourquoi ? C'est dangereux parce qu'au fond, on s'est habitué à ce que le limoud, c'est quelque chose de trop grand pour nous, trop dur pour nous, quelque chose qui nous dépasse. Et puisque ça me dépasse, c'est bien de savoir ce que c'est, mais on se trouve trop petit pour le faire. On se trouve trop petit pour le faire, pourquoi ? Parce qu'on a pris l'habitude d'être des petits. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, vous regardez les gens dans le métro. Moi, ça m'arrive souvent, je vois les gens dans le métro. Je me demande est-ce qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Et j'ai toujours l'impression que non. D'abord parce que sinon, ils ne seraient pas dans le métro. Mais ça, ce n'est pas une preuve, parce que ils sont peut-être venus voir pour voir les autres. Mais on a vraiment l'impression qu'ils ne sont pas capables de quelque chose de grand. C'est-à-dire que si on leur changeait un tout petit peu leur train-train, ils seraient complètement perdus. Et nous, on colle à ce genre de personnage. Toujours le même restaurant, toujours le même truc, tu vois. Alors, ici, il y a marqué une seule chose. Si quelqu'un se sent trop petit, ça veut dire qu'il se sent trop petit pour vivre. Et ça, c'est déjà difficile de se dire. Parce que sa petite vie, elle est peut-être petite, mais d'elle, il peut faire quelque chose. Si je me sens trop petit par rapport à l'enseignement, ça veut dire que moi, je sens que j'ai une vie qui est trop petite. Bon, mais c'est la mienne. Et viennent ici, les rachas me disent, il valait mieux que chez l'onivra qui ne soit pas créé du tout. Parce que d'être un lecteur, d'être un supporter, comprenez, à la fin, il y a tellement de monde sur le gradin qu'il n'y a plus personne qui joue. Ça, c'est pas possible. Le judaïsme, il n'a pas besoin de supporters. On a besoin de juifs. Les supporters n'ont pas besoin. C'est facile d'être un supporter. Pourquoi ? Parce que on se sent trop petit pour retenir le ballon. Alors, il ne faut pas être trop pessimiste. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui, après avoir vu des matchs de football pendant des années et des années et des années, ils savent jouer. Et puis un jour, ils sont tombés sur une piste avec un ballon et puis ils ont joué. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, c'est que chacun, au fond de lui, il a sa propre grandeur. Ça s'appelle sa vie. On a l'impression que c'est trop dur. Je ne sais pas pourquoi je suis assailli en ce moment de questions sur le fait de se couvrir la tête. Les gens, ils n'arrivent pas à se couvrir la tête. Comme si on a l'impression que tout le monde vous regarde et que vous êtes différent des autres. On a l'impression que, d'abord, le regard des autres, il y a une peur qui fait que je suis trop petit pour m'affirmer. Moi, je ne suis pas particulièrement en Lubavitch. Ça m'a quelque chose qu'il faut savoir, que ces gens-là, ils ont une fois pour toutes enlevé cette peur de s'affirmer. Et ça, c'est quelque chose de grand. D'où ça vient, comment ça vient, c'est à étudier. Mais il faut savoir que il y a des mouvements, il y a des gens qui brassent des idées avec aucune impossibilité de les affirmer. Dès que l'idée est là, ils sont capables de les affirmer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait fi, non seulement du regard des autres, mais surtout de penser que leur vie peut être petite. Et ça, on est obligé de s'inspirer de ça. Jusqu'où ça doit aller, on peut réfléchir. Comment ça doit être fait, on peut réfléchir. Dans quel cadre ça doit être fait, on peut réfléchir. Mais il y a une chose qui est certaine. Si quelqu'un voit, et ça on le trouve, parce que ça se voit sur la personne. Nous, on n'est pas tellement branchés pour... Le Rav Dessler disait que son père, il savait voir si quelqu'un mélangeait le lait et la viande, il le voyait sur sa figure. Nous, on n'arrive pas à le voir. Mais il disait, on voit quand même si une femme, elle va au mikvé ou non, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, de toute façon, ce qu'on est, ça se traduit. Ça se traduit physiquement. Il ne faut pas croire que c'est des idées. Si moi, je ne suis pas capable de le mener dans l'action, ça veut dire que je suis obligé un jour d'admettre et d'aller au fond de mes raisonnements, de me dire que je suis tellement petit que je ne suis pas capable de vivre ma vie. Et ça n'existe pas par définition. Il n'existe pas quelqu'un qui soit trop petit pour sa propre vie. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui peut penser qu'il est. C'est pour ça que la maladie est celui qui a peur. Cette peur-là, ça n'est pas la peur qui est salutaire. La peur salutaire, c'est quelqu'un qui possède quelque chose qui a peur de le perdre. Mais quelqu'un qui a peur de s'engager, ça c'est pas une peur salutaire. Ça n'existe pas ça. Chacun doit trouver quel est le cadre de vie, si c'est un manque de ferveur. Il y a des gens qui ont de la ferveur. Tout se trouve. Ça dépend si on va le chercher assez loin et si on arrive à le trouver à l'endroit où ça se trouve. Personne n'a le monopole et tout peut se trouver partout. Mais on est obligé de penser que si pour nous c'est des idées tellement évidentes, la raison pour laquelle on n'arrive pas à le traduire, c'est qu'on a un problème. Et c'est ce problème-là qu'il faudrait résoudre. Parce que tout le reste, ça n'a plus... En fin de compte, ça n'a plus d'intérêt. Ça veut dire qu'on peut étudier, on peut parler de choses et d'autres, on restera des supporters de la Torah. Ça, c'est quelque chose de grave, parce que celui qui est sur les gratins, il ne joue pas. Et celui qui ne joue pas, c'est un spectateur. Spectateur, c'est qu'on a raté sa vie. Si l'on n'est pas capable de le traduire, alors ça veut dire que il nous manque cette dimension-là. Là, on est obligé un jour, et ça, chacun va se réveiller, dans une mitzvah comme dans l'autre mitzvah. On sera obligé d'essayer de savoir pourquoi. À moins qu'on tombe, mais ça, je pense que ce sont des cas particuliers, de ce qu'a dit M. Taïeb tout à l'heure, qu'on remet en cause. Mais là, je lui dirai une chose. La remise en cause, elle dépend de la volonté, et non pas de la tête, ni de l'intelligence, ni de la logique. La seule chose qui n'a pas de limite, c'est la volonté. Et ce que la volonté peut imprimer sur la logique, c'est formidable. Je donne un exemple très simple. Moi, j'ai toujours été persuadé, avant d'arriver en classe de 6e, que deux droites, elles ne pouvaient jamais se rencontrer. C'est pas possible. Et puis un jour, on vient, on vous dit, il existe une nouvelle géométrie. S'appelle Obachansky, Riemann, machin, truc. Et on voit que c'est pas si simple que ça, et que quelquefois 2 et 2, ça peut faire 4, et quelquefois ça peut pas faire 4. Vous prenez un enfant, à l'âge de 5-6 ans, et vous lui enseignez que 2 et 2 font 4. Au fond, ce qu'il a vraiment envie, c'est que 2 et 2 fassent 5. Il a une envie absolument folle. Et il a un grand besoin de restreindre cette envie-là. Parce que ça lui ferait tellement plaisir que ça fasse pas 4. Et c'est que plus longtemps après, quand il sera dégagé de ça, qu'on lui montrera que peut-être ça ne fait pas tout à fait 4. Mais ça, c'est déjà un autre problème. C'est-à-dire que la volonté, elle a une force telle qu'elle peut me faire douter, refuser ce qui a de plus pur, de plus logique. Parce que le fait de faire sien quelque chose, ça dépend de la volonté. Un enfant qui ne voudra pas que 2 font 4, vous pouvez le frapper, vous pouvez lui expliquer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Puisqu'il ne le veut pas, eh bien ça ne fera pas 4.